Revue de presse de l'april, semaine 37, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors parle-nous du sommaire, s'il te plaît.
Petit sommaire, 6 articles principaux. Donc on va vous parler de chiffrement, des dépenses logicielles de l'État, encore une fois, les amendements sur la vente liée au Parlement, Albert Jacquard qui a passé l'arme à gauche, l'open source et l'économie en France. Et pour finir, on reparle du gouvernement québécois et d'une association qui s'appelle Facile, qu'on aime bien suivre.
Le chiffrement maintenant, partie 3, un article de Mikali, traduit par le Framablog.
Donc c'est un article parmi d'autres, et en fait c'est plus même une partie d'un livre qu'il va falloir tous qu'on lise.
Ah bon ?
Et oui, parce que le chiffrement, c'est maintenant, et c'est super important parce que bah, vous avez dû suivre un petit peu cet été. On se fait espionner à tour de bras, et ça continue. Hein. Il y a encore des révélations dont je viens de lire les rebondissements en Belgique et dans les Pays-Bas. Ils viennent de découvrir des backdoors installés par...
Oui, les NSA auraient piraté les fournisseurs d'accès, c'est ça ?
Voilà, toutes les télécoms, ils auraient fait des trucs assez chiadés, qui coûtent de l'argent, des ressources. Ils n'ont pas directement dit que c'était la NSA, mais en gros, c'est ça dont il s'agit. On le sait, hein, on se fait tous surveiller. On n'aime pas trop ça. Première solution, vous coupez vos fils, vous éteignez vos ordinateurs et vos téléphones portables et vous ne communiquez plus que par la voix. Ça marche. Mais pour les autres, pour nous, hein, on a un peu de mal.
Voilà, qui sommes sérieusement dépendants à la technologie, à Internet et tout ça.
Surtout toi. Donc, sérieusement dépendants que nous sommes, bah, on n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est une qui existe depuis déjà longtemps, mais qu'on n'utilise pas malheureusement, c'est le chiffrement.
Ouais, mais c'est quand même compliqué, non ?
C'est parfois compliqué. En plus de ça, il y a plein de niveaux, il y a plein de techniques qui ne s'appliquent pas toujours dans les mêmes conditions. Déjà, il faut commencer à creuser dessus. Pour ceux que ça intéresse vraiment, il faut savoir, c'est des mathématiques. C'est des opérations mathématiques.
Toi, tu sais donner envie.
Ça fait envie. Et l'article le présente assez bien. J'aime beaucoup cette façon de dire, voilà, vous appliquez une équation dans un sens, vous l'appliquez dans un autre, et vous pouvez donc chiffrer quelque chose et le déchiffrer ensuite. C'est pas mal. Vous avez des clés comme une serrure et vous pouvez envoyer quelque chose à quelqu'un et il n'y a que cette personne qui pourra le lire ou au contraire vous envoyez quelque chose à quelqu'un et cette personne saura que c'est vous qui l'avez envoyé. C'est souvent une des les deux bases qu'on peut utiliser, la signature et le chiffrement lui-même.
C'est un bon article de vulgarisation et
c'est
qui à la fois
bon
parle, qui raconte comment ça marche et qui en même temps donne des exemples concrets de surveillance et d'espionnage. Et donc on est à la fois dans l'apprentissage de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe sur le terrain en vrai et comment on peut effectivement chiffrer ces données.
Alors c'est pas un article tout seul, encore une fois, il y en a déjà deux autres précédents et il faut aller aider les gens du Framablog hein, parce qu'ils aiment bien faire ça, mais ils ont besoin d'aide. C'est il faut aider à traduire, à mettre en forme un peu tout ça, parce que ça vient d'un texte beaucoup plus conséquent. Et je pense que en allant le traduire, vous apprendrez plein de choses, ça peut faire du bien.
Numérama, l'État lève une partie du voile sur les dépenses logicielles. Bon, c'est le énième épisode de cette histoire qui se déroule au Parlement, donc une députée, Isabelle Attard, qui a posé des questions à chacun des ministères pour savoir combien ils dépensent en logiciel et combien ils dépensent en logiciel libre plus spécifiquement.
Et oui, c'est comme la danse des voiles, on en a un chaque semaine. C'est pas mal, moi j'apprécie parce qu'on voit un petit peu ce que ça nous coûte. Et même s'ils n'ont pas, et ils s'en plaignent, de comptabilité analytique très précise, pas tous en tout cas, bien ils arrivent à remonter cas 1, cas 1, les quelques chiffres et à essayer de séparer entre les logiciels privateurs et les logiciels libres.
Bon, l'article nous apprend pas grand-chose, hein, il fait un bilan des ministères qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, et bon voilà, ça permet de faire un petit point d'étape. ZDNet, vente liée, réaction à l'étouffement des amendements au Sénat, un article de Thierry Noisette. Donc là encore, on fait le service après-vente.
Et oui, et on sait bien avoir. Vente liée, mais j'ai aussi entendu parler de vente forcée. Je sais que tu as creusé sur le sujet.
C'est un des sujets qui fait débat. On en avait parlé la semaine dernière en disant qu'effectivement, il y avait des amendements qui étaient ressortis là-dessus et qu'on attendait de voir, mais qu'on ne s'attendait pas à des miracles non plus. Bah, on n'a malheureusement pas été surpris. Le gouvernement s'est débrouillé pour faire sauter ça et de façon un peu détournée et pas très propre.
Oui, hein, ils ont même contourné le rapporteur qui n'a pas eu le droit de dire ce qui s'était pas vraiment passé en commission. Et,
Le rapporteur, en gros, il y a une commission de parlementaires qui se réunit, qui étudie le sujet un peu plus à fond, puisque évidemment les députés peuvent pas être experts en tout, c'est pas possible. Et donc le rapporteur vient dire quel est le bilan de leur étude. Et donc le truc a été voté avant que le rapporteur puisse s'exprimer. Et le président de séance a dit non, c'est bon, on va continuer comme ça, c'est voté. Donc premier truc, il a pas pu s'exprimer alors qu'il était pour les amendements, et que c'était un peu le bilan des commissions. Un des trucs reprochés, c'est cette confusion par amont entre la vente liée et la vente forcée. Donc derrière des petites subtilités, la vente liée, c'est l'idée qu'un produit soit vendu à un certain prix uniquement dans des conditions où on est obligé d'acheter autre chose avec. Donc supposons qu'on veuille acheter un logiciel, pour l'avoir à pas cher, on est obligé d'acheter l'ordinateur qui va avec, c'est de la banquise. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir par ailleurs, genre Windows par exemple, mais on va payer Windows en version boîte, c'est-à-dire sans l'ordinateur, beaucoup beaucoup plus cher que si on l'achète avec un ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la banquise, c'est on veut un produit à un prix donné, et pour l'avoir en objet d'acheter autre chose. La vente forcée, c'est un peu le phénomène inverse, c'est-à-dire que vous voulez un ordinateur, et on vous refourgue par-dessus des trucs que vous n'avez pas demandé, et sans vous donner le prix, donc vous achetez un ordinateur, vous avez un Windows avec, vous ne savez pas combien il coûte, vous n'en voulez peut-être pas, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le prendre.
Et ce qui était bon dans la politique hein, de ces derniers mois, c'est que le gouvernement actuel avait dit qu'il était plutôt pour ouvrir tout ça et permettre au
Hollande lui-même avait fait une promesse là-dessus.
Donc là, on s'attendait à ce qu'il continue un petit peu dans cette zone.
On espérait,
et
en tout cas,
oui. On espérait fortement et on s'est fait couper l'herbe sous le pied. Alors, certains disent même que Hamon a fait mentir Hollande et qu'il lui a fait faire le contraire de ce qu'il disait. Donc il y a vraiment des cris d'orfraie sur tout cela, des gens qui appellent au mensonge tout simplement. Rien de moins.
C'est le cas de la Dulacte, hein, qui, y a une citation dans l'article, qui on ment beaucoup au Sénat par les temps qui courent.
Et les réactions des associations et des différents acteurs du libre et de l'informatique se sont montées.
Bah, l'article nous remonte trois réactions. Celle de la Dulacte, hein, donc la Dulacte, c'est effectivement plus orienté professionnel, mais ils sont quand même très très en colère. Donc c'est eux qui pointent notamment cette question du mensonge, et, en citant notamment la promesse de Hollande qui était « Je laisserai aux utilisateurs la possibilité de choisir leur logiciel. L'évolution technologique des dernières années a permis une baisse considérable du prix des composants matériels informatiques. Les prix des logiciels associés n'ont en revanche pas diminué et l'absence de visibilité de ce prix nuit à l'information des consommateurs et les empêche de faire jouer la concurrence. » Ce que j'ai lu, c'était ce que Hollande avait dit, et donc Hamon a déduit de ça que ça ne concernait que les professionnels. Donc réaction de la Dulacte, des promesses pas tenues, c'est grave. Ici, c'est d'autant plus pitoyable qu'il y a de l'argent public derrière. On nous dit que le logiciel libre, c'est important pour la France. On est cité en exemple dans la circulaire Héro. Mais quand ça passe au concret, on s'aperçoit qu'il vaut mieux être une grande entreprise étrangère qu'un consommateur français. Donc c'est quand même violent, quoi.
Et il y avait quoi d'autre comme réaction?
Alors il y a la FULE. La FULE, ils sont assez cinglants et assez moqueurs, puisqu'ils traitent Benoît Hamon de Pinocchio. Ils ont même lancé un hashtag sur Twitter là-dessus, donc qui est dièse Pinocchio Hamon. La citation:
Monsieur Benoît Hamon et ses collaborateurs ont donc décidé de soutenir les intérêts des grands éditeurs de logiciels grand public, principaux bénéficiaires de la vente forcée actuelle et dont les profits réalisés en France esquivent l'impôt français. Monsieur Hamon est allé jusqu'à rappeler les condamnations de Microsoft par l'Europe à propos du navigateur pour justifier de ne rien faire aujourd'hui.
Ce qui est d'une logique implacable. Nous, de notre côté, ben, l'April, on a également eu des réactions en disant que c'était un argumentaire honteux. Ce côté mauvaise foi a vraiment fait tiquer et a été vraiment très très visible. Et donc, on a estimé que Hamon avait noyé le poisson, notamment sur cette question vente libre, vente forcée, etc. Il a tout fait pour embrouiller les gens. Donc, c'était vraiment, vraiment de la magouille.
Oui, je pense qu'on peut dire, hein, on est déçu que pour une deuxième fois, le Sénat, dans ce qu'on en sait, avait proposé des bonnes choses et ça a été mis à la trappe.
Moi, ce que je retiens de positif de ça, c'est qu'ils sont obligés de mettre en œuvre des trucs de plus en plus acrobatiques, des machins de plus en plus tordus qui se voient de plus en plus. Et par le passé, ils disaient juste non et tout le monde s'en foutait. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ils sont obligés de prendre des chemins de traverse. On sait que pour le passage des pouvoirs de l'Adopi vers le CSA, ils vont probablement faire ça en loose day très prochainement. Malheureusement, les choses ne tournent pas comme on veut, mais ils ont de plus en plus de mal à faire ça au grand jour, tranquillement, etc. Donc on peut espérer qu'à terme, ils finissent par lâcher le morceau. Numérama, le généticien Albert Jacquard, détracteur de la propriété intellectuelle, est décédé. Un article de Julien L.
Donc un bon article qui rappelle le parcours du généticien. Et moi, c'est un autre truc que j'avais lu, c'est qu'avec sa mort, le QI français moyen est retombé à 80.
Oui, c'est une blague. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, Jacquard, il est très connu. Il s'était beaucoup engagé aux côtés des associations qui luttaient contre les problèmes de logement, par exemple. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait effectivement également pris des positions sur les questions de la propriété intellectuelle, en dénonçant ça comme une sorte d'escroquerie. Il avait été notamment approché par LibreAccès, qui avait organisé tout ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, il était apparu très fatigué. Il a fait aussi des conférences aux côtés de Richard Stallman, enfin au moins une. Et en dépit du fait qu'il était malade et déjà très fatigué, il est quand même venu. Et c'était quelqu'un qui était vraiment admirable pour ça.
Oui, il défendait pas mal l'idée que les idées ne sont pas des propriétés. Donc il attaquait un peu tout ça, il donnait des bons exemples, il est très didactique. J'aimais beaucoup sa comparaison avec l'arc-en-ciel, où il disait on peut le voir, on peut le percevoir, mais on ne peut pas le posséder. Et c'est pareil avec les idées. Donc, il y avait vraiment des bonnes choses. C'est dommage qu'il soit parti. On va chercher un nouveau héros.
Voilà, c'est pire qu'on ne peut pas le posséder, c'est qu'il n'existe pas à l'arc-en-ciel.
Oui. Là, forcément, allez mettre la main dessus. Mais c'est ce qu'on fait avec les lois aujourd'hui. On crée des lois, la propriété intellectuelle, soi-disant. Donc, un grand défenseur qui vient de partir.
Voilà. En tout cas, ce qui reste, c'est les conférences et tout ce qu'il a pu dire. Donc, allez chercher un petit peu ça sur Internet. Vous trouverez des tas de choses très intéressantes. Le Cercle et les Échos, l'open source, un nouveau modèle économique pour la France. Un article de Philippe Montargès.
Donc, ça fait partie d'une suite d'articles qu'on a prédit, hein, qui se met en place avant l'Open World Forum. Et donc là, l'auteur, c'est un dirigeant d'entreprise. C'est Alterway, il me semble.
Alterway, tout à fait.
Et donc, quelqu'un de très bien. Qui fait du libre en gros, pour l'essentiel.
Ah, très bien, sans doute. Bah, comme n'importe quel chef d'entreprise, il prêche pour sa paroisse et il essaye de faire de la pub pour ses trucs. On parle souvent de tribunes dans les Échos qui maintenant apparaissent régulièrement sur le logiciel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, c'en est une autre. Donc, alors évidemment, il y a toujours un petit côté pub, c'est normal. Mais il y a quand même des idées souvent qui sont intéressantes. Et là, c'est le cas, effectivement. Et il propose le logiciel libre comme une sorte de modèle économique, de nouvelle économie, de vraie nouvelle économie. Et je trouve l'idée intéressante, c'est une idée qui me plaît beaucoup et depuis longtemps, et qui est dire qu'on peut avoir une voie de développement et comment dire, une forme de système alternatif pour sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui.
Alternatif, pas complètement, parce qu'il parle encore, de compétition, d'économie, on reste dans
c'est
les modèles
chef
classiques.
C'est un d'entreprise.
C'est juste que pour être compétitif au niveau des entreprises et aussi au niveau de la France, eh bien, il faut investir là-dedans et il faut utiliser ces technologies-là plutôt que les logiciels propriétaires que, certes, on est supposé acheter qu'une fois à un moment donné. Et justement, c'est ce qu'ils prônent. Hein,
jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle version qui force à changer. Oui.
Et puis qu'on accumule une dette technique qui devient impossible à gérer. Non, justement, lui, il préconise et il reconnaît que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. On passe sur un modèle d'exploitation où on exploite du logiciel libre sur lequel on doit investir constamment, qu'on maîtrise, qu'on sait gérer et avec lequel on sera efficace. Et pas juste faire un one-shot, j'achète des licences d'un truc que je ne maîtrise pas du tout, qui au contraire va me plomber avec les années qui viennent, qui va être blindé de trous de sécurité, qui va avoir des fonctionnalités pourries et qui va me coûter de l'argent comme une forme de raquette. Non, non, au contraire, là, passer sur des choses beaucoup plus compétitives, bon, bien sûr, hein, il va pouvoir vous vendre le service qui va avec.
C'est certain. Donc là, ça démontre un des points très très forts du logiciel libre, c'est que dans le logiciel libre, on a à la fois des communautés, des gens qui sont des bénévoles, qui font des trucs parce qu'ils y croient, des gens qui y croient sans doute également, je pense pas qu'ils seraient lancés là-dedans autrement, mais qui sont voilà, dans une démarche business et c'est pas du tout incompatible. Et parce que la licence est libre et que le code est libre, et ben les deux peuvent cohabiter sans qu'il y en ait un qui mange l'autre.
Et on applaudit.
Direction informatique. Informatique libre, le gouvernement québécois a échoué selon Facile, un article de Benjamin Gébrac.
C'est pas un gros article, c'est plus une tribune contre le gouvernement québécois.
Oui, ben, on parlait beaucoup de ce qui se passait au Québec avec justement cette association Facile qui est tenue par un type qui s'appelle Cyril Béraud, qui a également une entreprise dans le domaine, qui était très active et le gouvernement québécois devait renouveler tout son parc informatique, purement dans ce que tu expliquais tout à l'heure, hein, ils avaient tous Windows XP, Microsoft dit coucou, on arrête Windows XP et donc il faut tout remettre à zéro, tout reconstruire à partir de zéro, donc un très très gros chantier.
C'est une bascule énorme qui coûtait, je crois que c'était de l'ordre du milliard.
Oui, facile. Et lui disait, bah, passons au logiciel libre, ça va coûter moins cher, on aura plus d'indépendance, on se retrouvera pas comme ça face à des grosses étapes.
Et il a fait plus que le dire, il les a mis au tribunal parce qu'il y avait eu un appel d'offres qui citait Microsoft et il a fait tomber l'appel d'offres.
Et oui, et il y a eu également un changement en termes de pouvoir, hein, le gouvernement a changé et il y avait eu des lois qui étaient passées en faveur du logiciel libre. Et son constat aujourd'hui, il est plutôt amer, c'est que en dépit de tout ça, il ne s'est rien passé. Il dit qu'il y a des tas d'appels d'offres qui sont passés, qui sont illégaux parce qu'ils citent directement, enfin ils contournent le choix en citant directement la solution qui doit être proposée, enfin en prenant bien sûr une solution propriétaire. Et en citant également un appel d'offres sur lequel il y a carrément une procédure pour corruption, donc quand même des gros morceaux.
Oui. Alors, il y a quand même une attente. Il y a une équipe d'expertise d'experts qui a été mis en place sur le libre au sein de ce gouvernement. On peut espérer ouais. qu'ils vont sortir des capacités plus fortes et des préconisations.
On sait que c'est une des grandes méthodes pour enterrer un problème. On fait une commission et les gens réfléchissent.
Voilà. Mais
pendant ce temps-là, le reste avance.
Il laisse ouvert cette porte-là. On peut espérer que ce sera un chemin qui sera pratiqué. Mais c'est vrai que oui, il y a de l'amertume dans cet article. C'est bien embêtant.
Très bien, Manu. Merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde. Salut.